Eh bien, on a commencé à tourner en mars 2021. On est allé au Mexique d'abord et on a fini en février 2022, ce qui était quand même extrêmement compliqué parce que le film devait être présenté en avant-première à l'UNESCO le 22 avril 2022, jour international de la Terre, et il y avait 1300 personnes et on était vraiment pris la gorge parce qu'en fait c'était très difficile de voyager, hein. C'était extrêmement compliqué, quoi. Il fallait un dossier haut comme ça pour sortir. On appelait ça le motif impérieux. Il a fallu qu'on aille demander le soutien, d'ailleurs, vous avez vu, du Quai d'Orsay et tout, pour pouvoir monter dans les avions. Enfin, après, la Thaïlande, on a pu y aller qu'en décembre 2021, parce qu'ils imposaient une quarantaine de 15 jours, donc pas question de payer des caméramans et des gérants du son dans un hôtel pendant 15 jours, vous voyez. Madagascar, ça a été terrible. On a dû repousser trois fois parce que c'était la saison des cyclones. Premier cyclone, on repousse. Deuxième cyclone, on repousse. Troisième cyclone, on part quand même. Enfin, c'est terrible ce qui se passe là-bas. Enfin. Donc voilà. Très compliqué, les PCR. Je ne peux pas vous dire, c'est pire que les chameaux. Hein, combien de PCR on a eu, enfin, horrible. Tout a été très compliqué. En plus des problèmes d'argent parce que les billets d'avion explosaient. Enfin, tout a été... Bon, c'est un miracle ce film. Hein, vraiment. Voilà. Juliette qui est tombée malade, elle n'était pas au Gabon ni au Kenya. Enfin bref, ça a été tout très très complexe.
Vous n'avez pas tourné en France, pourtant il y a aussi chez nous des endroits où on enlève les déforestations.
Oui, mais ce n'est pas ça le sujet, madame. Le sujet, c'est pas ça. Le sujet, c'est quelle est l'origine de l'émergence des maladies infectieuses. Et donc, évidemment que ça part des zones tropicales, parce que c'est là-bas qu'il y a beaucoup de micro-organismes, comme il y a beaucoup de biodiversité. Donc, le sujet, c'était ça. C'est pas... On déforeste, bien sûr, on déforeste. Oui.
En France, est-on protégé de ça, non ?
Pardon ?
On n'est pas protégé en France, non ?
Oui, sauf qu'en France, on n'a pas autant de micro-organismes potentiellement dangereux pour les humains, parce que malheureusement, la biodiversité, déjà, on l'a beaucoup détruite. Et que, de toute façon, historiquement, c'est toujours dans les zones tropicales qu'il y a eu le plus de biodiversité, donc de plus... Ça veut dire quoi ? Biodiversité animale, végétale et de micro-organismes, c'est logique. Donc ça, c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que le fait de... Alors je donne toujours cet exemple, hein, parce que ça concerne tout le monde. Le fait de manger de la viande pas bio et locale chez nous, je dis bien pas bio et locale, si elle n'est pas bio et locale, elle vient des élevages industriels. Si elle vient des élevages industriels, les animaux sont nourris avec du soja qui vient d'Amérique latine. Moi, j'ai filmé ça. Donc quand on mange de la viande pas bio et locale, eh bien, on contribue à la déforestation en Amérique latine, au dérèglement climatique et à l'émergence de maladies infectieuses. Donc voilà. Donc il n'y a pas de raison de filmer en France. Enfin, voilà. Alors la maladie de Lyme, moi je l'ai fait aux États-Unis parce que ce sont ces chercheurs qui ont mis au jour les mécanismes qui expliquent pourquoi, y compris chez nous, la maladie de Lyme est en pleine expansion. Alors chez nous, ce n'est pas la souris à pattes blanches qui est le réservoir de la bactérie de Lyme parce que c'est un rongeur qui est typique des Amériques. Chez nous, c'est le mulot et le campagnol, qui portent la maladie de Lyme, enfin la bactérie. Alors qu'est-ce qui se passe chez nous ? Ben, c'est pareil, là on déforeste de la même manière, et surtout on extermine les renards, ce qui est complètement une connerie, excusez-moi l'expression, parce qu'on a besoin des renards qui contrôlent la population des campagnols et des mulots. Exterminer les renards, c'est une bêtise. On a besoin des prédateurs. Alors je ne parle même pas des loups et des ours, où ça fait toute une histoire dès qu'on réintroduit les loups, vous savez, mais on a besoin des prédateurs. Vous avez vu chez les Maasai, c'est absolument impressionnant parce que ce sont des éleveurs. Ils ne font que ça, l'élevage. Alors, ils ont évidemment au milieu des lions et des hyènes. Hein. Donc, évidemment, qu'ils protègent leurs animaux, que parfois ils disent il y a un lion qui va être plus malin que nous et qui va nous bouffer une vache. Mais s'il n'y a plus de lions, il y aura trop d'antilopes. Et les antilopes mangeront tous les arbustes de la savane, ce sera un désert. Oui, tu te parlais de l'exemple de Yellowstone aux États-Unis. Très intéressant, un exemple dans un grand parc, le premier grand parc naturel au monde, hein, c'est aux États-Unis, où ils ont exterminé, à cause des éleveurs qui étaient autour, les loups. Et en fait, ils se sont rendus compte, au bout de plusieurs décennies, que c'était un désastre, c'était en train de devenir un désert. Parce que justement, les cervidés, tout ça a proliféré, et donc ils ont réintroduit le loup, et on voit comment... Il y a même un film qui a été tourné, moi je l'ai vu, c'est extraordinaire, hein, des scientifiques ont tout filmé, la réintroduction du loup, et, tout, et comment petit à petit, finalement, ils vont contrôler la population des cervidés, et que les arbres poussent, et que la forêt revient, et grâce au loup, voilà. Et donc, voilà, alors je vous informe quand même que je prépare un prochain film, parce que dans mon livre, La fabrique des pandémies, il y avait un chapitre, le chapitre 5, tous ceux qui l'ont lu m'ont beaucoup écrit en disant, ouais, mais c'est pas dans le film, je dis oui, parce que je peux pas tout mettre. Dans cette dans ce film, je me suis concentrée donc pourquoi est-ce que les maladies infectieuses partent surtout des zones tropicales, voilà, et toutes ces nouvelles maladies infectieuses, hein, et dont le sida fait partie. Parce que le sida, c'est une maladie zoonotique émergente. En 1981, quand officiellement il apparaît, en fait, c'est parce que d'un seul coup, il y a, je raconte ça dans mon livre, hein, je rappelle tout ça, hein, 5 homosexuels à l'époque, vous savez, on parlait de que c'était une maladie d'homosexuels, enfin bon, bref, qui sont identifiés avec une maladie inconnue, et on dit que le sida est apparu. Mais non, le sida est apparu, je raconte dans mon livre, le virus, dont le réservoir, ce sont des chimpanzés, au milieu du 19e siècle, en Afrique, à cause de la déforestation faite par les Européens pour faire des mines, pour faire etc., etc. Sauf que, donc, et du coup, il y a des villageois africains qui sont venus s'installer autour de ces zones-là, qui mangent du singe et qui ont été contaminés. Mais à l'époque, il y en a qui sont morts, on ne savait pas de quoi. Et puis surtout, il a fallu qu'il s'adapte pendant des décennies, ce virus, pour pouvoir devenir pandémique. Hein. Et ensuite, on découvre, mais ça fait déjà longtemps qu'il circule, en 1981. Donc voilà, mais il y a le Zika, le chikungunya, enfin, toutes ces maladies qui sont énormes. Enfin, il y en a beaucoup, beaucoup qui sont apparues depuis une cinquantaine d'années parce qu'on est en train de détruire les dernières forêts tropicales qui restent. C'est simple. Alors, dans le chapitre 5 de mon livre, les scientifiques m'expliquent, là, ça nous concerne plus directement, du coup, nous, le lien entre la biodiversité extérieure et la biodiversité intérieure, c'est-à-dire le microbiote, la flore intestinale. Et vous verrez, les études sont très intéressantes. Elles montrent que si on veut que nos enfants aient un bon système immunitaire et soient à l'abri des excès inflammatoires, l'asthme, les allergies alimentaires, vous savez qu'il y a de plus en plus d'enfants et de jeunes qui sont allergiques au gluten, au lactose, au blanc d'œuf, qui ont la maladie de Crohn, qui ont un intestin poreux, qui font du diabète, qui font de l'obésité, tout ça, eh bien, si on veut qu'ils aient pas tout ça, il faut qu'entre 0 et 2 ans, c'est très précis, hein, les études sont très précises, ils soient exposés à un maximum de microbes. C'est tout le contraire de l'hygiénisme. C'est-à-dire qu'il faut que, déjà, dans le ventre de la maman, elle mange pas normalement biodivers, bio. Et vous allez voir même plus que ça, parce que vous allez voir dans le prochain film, une étude extraordinaire qui est conduite en Europe, dans 5 pays européens, dont la France, et donc dans 5 zones d'élevage européennes. En France, c'est la Franche-Comté qui a été choisie. Et on a pris dans chaque pays 200 familles, 100 familles qui sont nées sur une ferme où on fait du comté. Alors quand on fait du comté, en général, enfin souvent on est bio, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que les vaches, elles mangent de l'herbe, ça fait partie du cahier des charges. Et 100 familles qui sont nées dans cet environnement rural, mais pas sur une ferme. Parce qu'en fait, l'idée, c'était de vérifier ce qu'on appelle l'hypothèse de la ferme. Ce qu'on a constaté, c'est que les enfants qui sont nés dans des fermes avec des vaches laitières qui mangent de l'herbe, ils n'ont pas d'allergie, ils n'ont pas d'asthme, etc. Et donc ils ont voulu vérifier ça dans 5 pays européens, en Bavière. Bon. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont suivi pendant 20 ans, d'abord depuis le 3e trimestre de la grossesse de la maman jusqu'aux 18 ans du jeune, en faisant tous les ans des prélèvements sanguins, cutanés, qu'est-ce qu'ils boivent, quel lait, qu'est-ce qu'ils mangent déjà pendant la grossesse, combien de fois l'enfant va, pendant son enfance et tout, aller dans les tables, être en contact avec les vaches, les poussières qu'il y a dans la maison. Résultat, dans les 5 pays européens, tous les enfants qui sont nés dans des fermes où il y a tout ça, les vaches et tout ça, le foin et tout ça, ils n'ont pas d'asthme, ils n'ont pas d'allergie. Et puis, qu'est-ce qui les protège le plus? Le lait cru et le fromage au lait cru, et qu'il est même conseillé de manger dès 3 mois. C'est ça qui va stimuler votre système immunitaire par l'intermédiaire de l'ensemencement du microbiote. Voilà, et des études similaires ont été faites aux États-Unis. Vous verrez, je vais aller dans ce prochain film, par exemple, ça me fait beaucoup rigoler, parce que quand j'écrivais mon livre, M. Macron a comparé les écolos à des Amish, vous vous rappelez de ça? Ah ben, ils ont fait des études chez les Amish aux États-Unis, parce que les Amish font pas d'allergie, font pas d'asthme, ils se disaient qu'est-ce qu'il fait, pourquoi, etc. Et ils ont comparé, ils ont prélevé des poussières dans la maison des Amish, c'est bourré d'allergènes, ils n'ont pas d'allergie. Si vous ne voulez ne pas avoir d'allergie, il faut être confronté à plein d'allergènes tout petits. Et donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire aussi que non seulement la maman elle mange, hein, etc. Le bébé, il naît par les voies naturelles, parce que je vous rappelle qu'il y a quand même pas mal, en Italie par exemple, 80% des naissances se font par césarienne, par confort, hein, c'est tout. Hein. Très mauvais, enfin, sauf si on ne peut pas faire autrement pour des raisons. Mais là, mais vous savez que quand il y a des césariennes aujourd'hui qui sont médicalement, eh bien, on prend un coton-tige, on le met dans le vagin de la maman et on fait sucer le bébé pour qu'il ensemence son, son microbiote. Vous voyez ? Ensuite, il faut l'allaiter. Et puis enfin, il faut arrêter de le laver 10 fois par jour, le laisser crapahuter, revégétaliser les cours de récréation. Dans le prochain film, vous verrez comment je filme ça, justement. Vous voyez qu'il y a des animaux, qu'il y a des arbres, qu'il y a plein de biodiversité. Et monsieur le maire, plein d'arbres, plein de fleurs dans votre belle commune. Vous voyez ? Voilà. Là, on peut casser des parkings, vous voyez, pour mettre des... Ah ben voilà. Et donc... Voilà, alors en ce moment, il y a une... Moi, je vais aller à... Bon, il y a des villes qui... Bordeaux, par exemple, a voté 18 millions d'euros pour que toutes les cours de récréation, dans les 10 ans qui viennent, toutes les cours de récréation qui dépendent de la commune, soient toutes revégétalisées. Et vous verrez dans le film, d'ailleurs, une étude qui donne d'ailleurs plutôt d'espoir, parce que finalement, ça se passe en Finlande. Des chercheurs ont pris 10 cours de récréation d'école maternelle. 5 qu'ils ont... Donc, on appelle ça désencrouté, donc ça me fait rire. Ils ont cassé le bitume, là, et ils ont mis des arbres, des plantes, etc. Et puis les 5 autres, ils les ont laissés comme ils étaient. En fait, on se rend compte qu'au bout d'un mois, quand vous passez un enfant, vous changez d'environnement et que vous passez à une cour de récréation revégétalisée, au bout d'un mois, son microbiote, déjà, là, tout petit, hein, parce qu'à 2 ans, tout est plié. Hein. Vous pouvez faire des petits changements à la marge, mais tout est acquis. Donc, c'est quand même, il ne faut pas rater les 2 premières années de la vie. Eh bien, très vite, les enfants, en fait, ont des bonnes bactéries dans le corps, etc. Tout ça, c'est important parce que on comprend mieux pourquoi, et c'est ce que va montrer le prochain film, et c'est déjà écrit dans le livre, pourquoi, contrairement à ce qu'on nous avait dit, il n'y a pas eu d'hécatombe en Afrique avec la Covid-19. C'est un mensonge. On nous a dit, il y aura une hécatombe, gna gna gna. Bon, c'est faux. Et en fait, les scientifiques ont montré, et c'est pareil pour Serge Morand en Thaïlande, il a fait la même chose dans les zones rurales de Thaïlande, que dans toutes les zones rurales d'Afrique et d'Asie, où il y a une grande biodiversité, les gens ont des anticorps contre la Covid, mais n'ont été ni malades, ni morts. Hein ? Et la Thaïlande, qui est un pays avec à peu près la même population que la France, il y a 20 fois moins de morts. Et les morts, ils étaient à Bangkok, parce qu'à Bangkok, comme à Paris, on a tous... Enfin, les citoyens ont, en général, un microbiote ratatiné, trop de malbouffe, trop de béton... Trop d'hygiénisme complètement délirant, hein, l'obsession de vous voyez, passer des enfin, bref, l'obsession de l'hygiène, quoi. Et c'est intéressant, parce que c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de la biodiversité, ce qui fait que donc, il n'y a pas eu de mort dans les zones rurales africaines et asiatiques. D'ailleurs, quand vous êtes au Gabon, petite anecdote, comme là vous avez vu dans le film, quand vous parlez avec les villageois, il y a de la Covid-19, la maladie des blancs obèses. Ben oui, ils ont raison. Évidemment qu'ils ont raison. Premier facteur de comorbidité, le surpoids pondéral. Très, très clair. Vous verrez pourquoi dans le film. Parce qu'ils ont très bien montré, les scientifiques, que les gens qui sont en surpoids, en surcharge pondérale, vraiment, hein, obèses, d'abord, pour la grippe, sont des victimes bien plus... Enfin, ils meurent de la grippe, parce qu'en fait, l'obésité, qui a un dysfonctionnement, notamment du microbiote, acquis depuis la petite enfance, tout ça va être démontré par les scientifiques, fait que vous êtes beaucoup plus vulnérable à l'effet des virus, comme la grippe, et donc aussi du coronavirus, qui sont tous les deux des virus à ARN. Et, donc, vous voyez. Donc, on comprend aussi pourquoi, finalement, ce sont les pays occidentaux qui ont paniqué comme des malades avec un petit virus. Ce que vous avez compris aussi, c'est que le coronavirus de la Covid-19, c'est du petit chat. Hein. Ils vous disent tous. Hein. Ils tuent moins d'1% des gens, mais c'est rien du tout. En Afrique, ils rigolent en disant, mais c'est quoi? On a 600 000 morts par an à cause du paludisme. Hein. Et vous fermez tout à cause d'un microbe qui tue moins d'1% des gens. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire? Enfin, voilà, ça permet quand même de se remettre aussi dans un contexte, vous voyez, beaucoup plus large, quoi. Enfin, voilà.
Et sans mensonge.
Ben oui. Ben oui, parce que ces scientifiques, je vous dis, ils sont indépendants, c'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas pour les laboratoires, ils essaient de comprendre ce qui se passe et de nous donner des informations pour pouvoir agir et anticiper les prochaines, parce que autant ils disent tous que le coronavirus, c'est vraiment pas un virus dangereux. Si on a paniqué, en fait, dans les pays occidentaux, c'est parce que dans tous les pays occidentaux, on a tellement fermé de lits dans les hôpitaux qu'on n'avait plus de quoi prendre en charge les gens à risque, qui sont tous ces gens qui ont des maladies chroniques, l'obésité étant le facteur numéro un, mais aussi l'hypertension, toutes les maladies liées de... tout ce que j'ai décrit dans d'autres films, hein, la pollution, enfin, etc. Si on avait eu suffisamment de lits dans les hôpitaux... Je rappelle qu'en France, on en a fermé 100 000 en 20 ans, hein, quand même. Eh bien, on pouvait prendre en charge ces personnes-là. On n'aurait pas paniqué comme ça. On laissait les autres l'attraper. Parce qu'en fait, c'est un virus tellement peu mortel que le mieux, c'est de l'attraper. C'est tout le contraire de ce qu'on a fait. Vous voyez ? Et ça, pour moi, c'est très clair avec la parole des scientifiques.
Juste une information, enfin, on discutait tout à l'heure avec les élèves. Tu as vu une centaine de scientifiques pour le film et tu en as gardé une soixantaine, c'est
ça ? Alors, j'en ai interviewé une centaine pour le livre, j'en ai gardé 62 dans le livre. Et pour le film, il y en a une quinzaine, entre 15 et 20, mais je ne peux pas en mettre plus parce que c'est déjà.
Et alors, je peux vous dire que ce matin, le débat qu'on a eu donc, avec les 250 ou combien élèves, ils étaient un peu médusés quand ils ont compris qu'en fait, on rentrait dans un temps de pandémie régulière et que ce qu'ils avaient vécu comme nous, comme un truc assez exceptionnel où le monde s'arrêtait, on se confinait, etc., bah, le film montre bien que bon, bah, ça va se poursuivre, les pandémies vont se succéder de manière de plus en plus importante. Et je peux vous dire que la transmission de ce message auprès de jeunes gens, pour en avoir reparlé avec eux, parce que j'en ai vu quelques-uns cet après-midi, donc qui ont vu le film ce matin, ça participe à une inquiétude générale quand même, face à laquelle il n'est pas facile de se positionner. On leur a quand même filé en héritage une situation qui est quand même compliquée à assumer. Et aujourd'hui, il y a quand même une sorte de, on va dire un peu de dépression hein, sur les questions environnementales. Et que, on en parlait avec Marie-Monique tout à l'heure, il s'agit aussi toujours de, à la fois d'informer de manière lucide, mais de ne pas perdre l'espoir, parce que sinon, quand on a 15 ans et qu'on se dit qu'il n'y a pas de futur, c'est quand même pas la chose la plus amusante. Donc, t'imagines que tu as eu des échos, toi aussi ?
Ah bah oui, moi, de toute façon, j'ai toujours qu'il est trop tard pour être pessimiste, premièrement. Donc, voilà. le climat se dérègle à une vitesse. Moi, ça fait 40 ans que je voyage, je peux vous dire que j'ai vu l'emballement partout, et le dernier voyage en particulier. Donc, ça s'emballe, et c'est la caractéristique du dérèglement climatique, c'est exponentiel, donc il y a des point de bascule qu'il ne faut pas passer parce que sinon ça s'emballe. On ne sait même pas mesurer ce que ça veut dire, hein, si l'océan continue à s'acidifier comme ça, les forêts à être en stress hydrique, hein, n'est-ce pas ? Le permafrost, que l'on n'a pas parlé dans le film, mais j'en parle dans le livre, j'ai interviewé tout un groupe de chercheurs des grands pays du Nord, la Finlande, la Russie, l'Alaska et tout ça, ils sont très inquiets parce qu'ils savent pas ce qu'il va sortir de l'air. Avec ce qui va sortir de la glace, évidemment. Hein. Alors déjà, ils ont vu réapparaître des virus d'anthrax, avec des rennes décongelées, enfin, mais tout ça fond, on ne sait même pas ce qui va sortir de ça, et on n'a aucune protection hein, contre ça, nous, aucune immunité. Hein. Donc voilà. Alors après, moi j'ai toujours, face à ce constat, on n'a que trois options, en fait, il n'y en a que trois. Hein. La première, c'est se tirer une balle dans la tête, et moi, ce n'est pas mon genre, et puis je pense que ce n'est pas la solution. La deuxième, c'est de se retirer dans un bunker, c'est tout le survivalisme et compagnie, c'est pas non plus pour moi une option. Et la troisième, eh ben, c'est de se battre pour qu'on arrive à faire ce qu'ils disent en ce film, c'est-à-dire à changer de modèle économique, parce que c'est quand même ça la première. Oui, mais l'éducation, vous savez, on éduque aujourd'hui, mais on est tellement dans une situation d'urgence qu'il faut éduquer, évidemment, mais éduquer pour préparer à la résilience et tout, mais il faut agir maintenant, parce que si vous agissez pas maintenant,
c'est pas contradictoire, hein, mais c'est ce qu'on fait là.
Non, je parle de mesures qu'il faut prendre rapidement pour stopper ce qui est en cours. Là, vous voyez, alors évidemment, il faut préparer les.
Il y a 7 milliards et demi humains. En 2050, il va y en avoir dans les environs de 10 milliards.
Alors, vous savez, c'est très controversé en fait. Vous savez, ça, on a parlé récemment quand le 8 milliards d'EM, 1008 milliards, je sais pas comment on dit, qui est donc il y a deux mois. Et en fait, vous savez, les prospections ne vont pas du tout dans ce sens-là. Hein. Les prospections, déjà, il y a 52 pays dans le monde qui ont un taux de reproduction qui est inférieur au taux, enfin un taux de fertilité inférieur au taux de reproduction naturel des générations, y compris en Asie. On dit souvent qu'on va arriver à un pic et que ça va baisser. Et puis, de toute façon, pour moi, c'est un faux problème. Et pas que moi. Hein. J'ai posé cette question, évidemment, aux scientifiques. Bon, c'est pas dans le film, mais c'est dans le livre. Et c'est aussi, d'ailleurs, je vous informe, si vous voulez revoir le film, vous pouvez le voir en ce moment en replay. Donc vous tapez France Télévisions Outre-mer, la fabrique des pandémies, et vous reverrez le film. Deux, on a créé un site internet avec l'éducation nationale qui est libre d'accès, 30 vidéos complémentaires du film, des fiches pédagogiques, où il y a notamment la question de la démographie qui est abordée. Allez voir, baladez-vous dans ce site, il y a plein de choses complémentaires. Voilà. Non, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que 1% des plus riches de cette planète sont responsables de 50% des gaz à effet de serre, déjà pour commencer. Hein. Ils sont responsables de autant de gaz à effet de serre que la moitié de la population mondiale. Le problème, c'est les pays riches et les très riches des pays riches. D'ailleurs, il ne faut même plus dire les pays riches, parce que finalement, il y a des très riches, des millionnaires et des milliardaires, aussi bien dans les pays du Sud que du Nord maintenant. Mais c'est ça le problème. Il faut vraiment bien comprendre, il ne faut pas se tromper d'ennemi, hein, parce que le discours sur la démographie est très dangereux, à mon sens, et aussi pour les scientifiques de ce film, hein, parce que d'abord, il y a une petite tendance eugéniste disant on est trop nombreux sur cette planète, sous-entendu, il y a trop de pauvres, parce que c'est le problème. Non, ce n'est pas les pauvres le problème, c'est les riches le problème. Et ça, il faut vraiment être clair là-dessus. Les inégalités explosent. Les grandes fortunes du monde ont augmenté leur patrimoine de 60% avec la crise, là. L'Afrique, par exemple, qui représente 14% de la population mondiale, c'est 3% des gaz à effet de serre. Donc, ne nous trompons pas d'ennemis, si j'ose dire. C'est pas le problème, c'est pas la démographie. Le problème, c'est un mode de économique fondé sur le productivisme, avec un système. Moi, j'ai fait un film et un livre là-dessus qui s'appelle Sacrée Croissance. Hein, de toujours plus de production, de consommation, donc le fameux PIB. Comme moteur de l'économie, hein, on n'arrête pas de nous dire il faut que la croissance revienne, la croissance c'est la solution et c'est pas le problème, alors que c'est l'inverse, la croissance c'est le problème et c'est pas la solution. On peut pas continuer avec un modèle économique fondé sur la croissance, qui est elle-même exponentielle d'ailleurs, dans un monde où les ressources sont limitées, et aussi la capacité d'encaisser les déchets que nous produisons, et là on voit bien qu'on a atteint des points de saturation. Donc tu parlais de sobriété heureuse, il va falloir développer des modèles économiques qui, par exemple, interdisent définitivement l'obsolescence programmée, qui font qu'on a des téléphones portables, mais qui durent 40 ans, qu'on peut réparer, enfin, etc., etc. Et ne pas encourager de changer de téléphone portable tous les 18 mois, c'est ce qui se passe en France en ce moment. Tout ça, ça ne peut pas continuer, quoi. Voilà. Et arrêter de manger de la viande qui est nourrie avec du soja, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, parce qu'à un moment, quand on parle de One Health et on parle de vision globale, c'est ça aussi, hein, c'est de se dire... Ah ben les poulets des élevages intensifs, eh ben ils sont absolument pas durables. Voilà, c'est tout. C'est pas bon pour les poulets en plus, c'est pas bon pour la santé. Enfin bref, oui. Bah, la grippe, c'est un exemple parfait de maladie infectieuse transmise par un virus, qui est le virus de la grippe, dont les réservoirs sont des oiseaux sauvages. Lesquels les oiseaux sauvages, d'ailleurs, la population est absolument en train de s'effondrer, hein, d'ailleurs. D'accord ? Alors, il faut savoir que le virus de la grippe, comme pour tous les virus qui viennent de chauves-souris, hein, les virus zoonotiques ne sautent jamais directement aux humains. Un virus de grippe d'un oiseau sauvage ne peut pas contaminer les humains. C'est impossible. Ils ne sont pas adaptés pour ça. Donc, il faut qu'ils transitent par des hôtes intermédiaires, comme c'est dit dans le film. Pour le virus de la grippe, première étape, c'est les élevages intensifs, et j'insiste bien, parce que les études sont très claires là-dessus, parce qu'évidemment, les élevages intensifs de poulets, d'abord, ils sont tous génétiquement similaires, ils sont en état d'immunodépression, parce que des conditions de vie absolument terribles. Quand vous balancez un virus de grippe là-dedans, c'est une bombe. Et le virus atteint sa virulence, là, dans cet élevage intensif. Mais après, ce virus qui est passé par l'élevage de poulets ne va pas forcément contaminer les humains non plus. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une case qui est une case intermédiaire très importante pour qu'il soit transmissible aux humains, c'est la case des cochons. Rappelez-vous, 2009, on a parlé de grippe aviaire porcine. Parce que, vous avez compris, les cochons, nous partageons 95% de nos gènes avec eux. Donc si on veut humaniser un virus de grippe, il faut qu'il passe par les cochons. Là, c'est bingo, d'accord ? Voilà, donc vous voyez, il y a toute une série de conditions, mais c'est nous qui les créons, les conditions, en fait, par ces élevages intensifs. Et ce qui est dingue dans cette histoire de... moi, je suis de très près, parce que je suis originaire des Deux-Sèvres, et je suis né sur une ferme dans les Deux-Sèvres, donc je connais bien le monde agricole et rural, et j'ai pas mal de copains là-bas qui font du poulet bio de plein air, et dont je pense à un couple là, qui deux fois de suite s'est fait abattre tout son élevage de plein air, à cause d'un cas de grippe à 3 km dans un élevage où il y avait 25 000 poulets. Quoi. Et ça, c'est dingue. Parce que ce sont les élevages intensifs qui créent, et même pire que ça, hein, parce que je me suis intéressé très près à cette question, comme on a abattu, je ne sais plus, 28 millions de poulets, je crois, depuis un an, enfin, c'est un truc de fou, il n'y a plus de place dans les unités d'écarissage. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit de les enterrer sur place. Donc les élevages intensifs qui ont des cas de grippe, hein, enterrent leurs poulets sur place. Résultat, il y a les rongeurs qui viennent et tout. Et on a dissimulé partout le virus de la grippe, ce qui fait que les oiseaux sauvages de la côte atlantique sont contaminés et qu'on est en état de situation de grippe maintenant quasiment endémique. Hein. Tout ça à cause de l'élevage intensif, il faut être bien clair. Hein. Parce qu'un élevage intensif de poulets, ça veut dire que les poussins naissent à un endroit, on les emmène à un autre, et puis après on les emmène encore à un autre, etc. Et là, on trimballe évidemment le virus. Et ce qui est grave, c'est qu'en fait, ceux qui vont tirer leur épingle du jeu dans cette affaire, c'est les gros, au final. Parce qu'on oblige ceux qui font des poulets bio et de plein air à confiner leurs animaux. Et c'est marrant d'ailleurs parce que récemment, j'ai fait une projection dans le Gers, où là aussi il y a eu pas mal de... Et il y avait quelqu'un de la Confédération paysanne qui était là et qui est spécialiste de la grippe. C'est en plus une biologiste, hein, bref, paysanne, biologiste. Ouais. Et elle disait, c'est terrible parce qu'on voit bien... Là, en ce moment, par exemple, vous allez acheter des œufs qui sont soi-disant de poules élevées en plein air. Et en fait, c'est un mensonge, parce qu'il n'y a aucune poule en plein air en ce moment. Mais on ne veut pas le dire parce que les consommateurs, donc on ment, hein. Les consommateurs commenceraient à se dire, mais c'est quoi cette histoire, quoi ? En fait, vous achetez des poules. Il n'y a pas de poules en plein air en ce moment. Sauf ceux qui ne respectent pas, entre guillemets, les injonctions. Vous voyez, donc, c'est nous qui créons les conditions de ces pandémies. La grippe a toujours existé, mais c'était saisonnier. Enfin, et ce qui fait que maintenant, elle devient vraiment mondiale et surtout très, très fréquente, c'est ces pratiques d'élevage intensif. Un autre exemple, la Thaïlande. Qui est l'un des premiers exportateurs de poussins au monde. Moi, je ne savais pas, mais la Thaïlande, ils exportent des milliards de poussins en Afrique, notamment. Vous vous rendez compte ? Eh bien, la grippe est arrivée en Afrique par le... Mais c'est ce que dit Serge Morand. C'est dingue, quoi. On balade tout dans tous les sens, et après, on s'étonne qu'il y a des maladies qui deviennent pandémiques. Mais évidemment, c'est nous qui créons ces conditions-là. Donc, la meilleure protection, en plus, par rapport à la grippe, c'est très clair. Il vaut mieux que les poulets ils soient à l'extérieur parce que c'est quand même la grippe, comme vous savez, c'est quand même une maladie respiratoire. Enfin, c'est un virus. Et donc, quand vous êtes dehors, il y a beaucoup moins. C'est pas la même chose que d'être confiné. Mais on fait faire le contraire, vous voyez. C'est dingue. Voilà, c'est tout. Je peux pas vous dire autre chose. Et c'est vraiment, c'est très préoccupant, hein, parce que si ça continue comme ça, tous les éleveurs qui font des poulets de qualité en plein air, et ben, ils vont disparaître. Hein. Enfin, et on va se retrouver qu'avec du poulet de... Excusez-moi, hein, parce que moi, je ne mange pas du poulet d'élevage intensif, vous avez bien compris. Ça, non, jamais. Hein. Jamais, jamais. Parce que c'est avec du soja, parce que les poulets sont maltraités, parce que, tout ça, j'en veux pas. J'en mange pas. Je préfère pas manger de viande que de manger ça. C'est clair pour moi, quoi. Vous voyez ?
Des questions ? D'intervention ?
Ben, vous savez, alors l'urgence, là, je vous confirme, je n'aurais pas dit ça il y a 10 ans, hein. Mais là, je vous dis, c'est vraiment urgent, urgent, quoi. Hein. Si on ne change pas rapidement de cap, excusez-moi, mais... Alors, ben, il y a deux leviers, hein. Le levier individuel, parce que ça, c'est important. Il faut déjà être soi-même cohérent dans ce qu'on fait. Hein. L'alimentation, évidemment, c'est un levier puissant, c'est d'ailleurs aussi un levier pour le climat, hein. Parce que tout le modèle agro-industriel, à lui tout seul, il représente 40% des gaz à effet de serre, hein, si on tient compte de tout. Les pesticides qui sont faits avec du gaz et du pétrole, hein, donc les engrais avec du gaz, les pesticides avec du pétrole, voilà. Le fait qu'on balade sur des grandes distances sur ces produits alimentaires. Je rappelle que pour les élevages intensifs, près de 50% aujourd'hui des céréales produites, c'est fait pour les élevages intensifs, c'est pas fait pour nourrir les gens. Quand vous avez une monoculture, non seulement ça ne capte pas du carbone, mais ça en émet. Vous avez vu tous ces terrains nus qu'on voit là quand on prend le train, qu'on traverse la France, c'est impressionnant. C'est que du gaz à effet de serre qui monte sans arrêt, là. Vous voyez ? Donc, voilà, le plastique, tout ça fait que C'est énormément de gaz à effet de serre, alors que l'agriculture devrait, par définition, capter du carbone. C'est quand même incroyable, quoi. Voilà. Donc, il faut, partout où on est, déjà, s'interroger sur ce qu'on mange, parce que c'est quand même, vous l'avez raison, pour ceux qui ont les moyens de manger correctement, ben, on peut manger correctement sans passer par toute cette filière agro-industrielle et encourager la production locale, de proximité, bio, etc., bien sûr. Après, il faut encourager tous les projets. Il y a plein d'associations qui font des choses formidables. Hein. Puis soutenir les maires quand ils ont des bonnes idées. Et puis voilà. Et puis virer ceux qui n'en ont pas de bonnes. Eh ben oui, excusez-moi, monsieur le maire. Parce que le deuxième levier, évidemment, c'est les politiques à tous les niveaux. Moi, j'ai fait un film qui s'appelle « Qu'est-ce qu'on attend ?» dans un village alsacien qui est un modèle. Vraiment, on vient de partout maintenant pour voir dans tous les domaines, grâce à un conseil municipal très éclairé, qui a emmené la transition écologique dans tous les domaines. Et la bonne nouvelle, parce que moi j'ai fait ce film il y a plusieurs années, mais il continue de circuler parce qu'il est très inspirant, hein, c'est très concret, enfin, dans le domaine de l'alimentation, l'éducation, l'habitat, enfin, etc., etc., l'énergie. Enfin. Et là, je parlais avec le maire récemment, le maire de Hongersheim, et qui me disait que dans la communauté de communes de Mulhouse, tout le monde le regardait, c'est un de ses copains, hein, vous connaissez les communautés de communes. Je disais, ouais, il est bien gentil, mais bon, c'est un peu farfelu. Enfin, voilà. Bon. Sauf que maintenant, il y a eu le film, d'accord, mais maintenant, lui, il a tellement bien isolé tous ses bâtiments municipaux, la piscine et tout ça, tous des panneaux solaires partout. Ils ont fait faire un cadastre solaire de la commune, identifier tous les toits bien orientés, l'espace. Ils ont encouragé les citoyens qui avaient un toit bien orienté à mettre des panneaux solaires, etc., etc. Qu'aujourd'hui, il dit, nous, la crise de l'énergie, on ne la sent pas. On ne ferme pas la piscine, rien. En pleine Alsace, il ne chauffe pas les écoles tellement c'est bien isolé. Eh bien, il a tout gagné. Donc, du coup, la communauté de communes, c'est marrant, a demandé au maire de Hongersheim d'organiser une journée de formation sur la transition écologique pour les 186 élus de la Comcom, et c'est moi qui vais la faire. Et voilà. Mais vous voyez, comme quoi... C'est pour ça que quand on anticipe, je vous demandais par rapport à votre bâtiment qui est magnifique, là vous m'avez dit que vous aviez bien isolé aussi quand vous avez fait la réhabilitation, mais c'est ça, les maires éclairés, c'est aussi ceux qui, voyez, bah, qui anticipent tout ça. Et lui, sa commune en Alsace, est tellement bien préparée, donc évidemment, il est quand même affecté, si vous voulez, mais si vous voulez, ça n'a rien à voir avec d'autres communes qui sont obligées de fermer les piscines, qui de moins chauffer les écoles, parce que, vous voyez, parce qu'eux, ils ne chauffent plus de toute façon, parce que c'est tellement bien isolé, vous voyez. Ils ont fait une filière... un réseau de chauffage collectif par le bois, enfin, etc. Quoi, voyez, donc ils sont... voilà. Donc les maires éclairés, donc, on a besoin de maires éclairés, puis après on a besoin de députés éclairés, et après on a besoin de ministres éclairés. Donc vous voyez... Eh oui. Eh oui.
Et plus ça monte, plus c'est compliqué. Hein. Ouais. Oui.
Juste nous, par rapport à... Pardon, on est des étudiants, et au niveau de l'argent, ça peut être compliqué. Comment on est censé faire pour manger des bons produits ou pour, enfin, parce que nous, on est obligé en fait, de passer par ces produits mauvais pour l'environnement, tout ça. Ce serait quoi les solutions à adopter ou quoi pour nous?
Alors, bon, ça, c'est une bonne question, parce que souvent, on dit, bon, le bio, c'est très cher. Ça dépend comment où tu l'achètes. Moi, je vais te donner un exemple. Moi, j'habite dans le 93, qui est donc un département le plus pauvre de France, n'est-ce pas? Je suis née sur une ferme dans le Poitou-Charentes, mais voilà, le monde rural, je connais bien, mais la banlieue, je connais bien aussi. Et à Saint-Denis, qui est vraiment une ville souvent citée en exemple, ils ont fait un atelier. Alors, c'était plutôt des femmes, parce que souvent, c'est les mères qui font à manger. Donc, des femmes qui sont plutôt issues de l'immigration et qui ont des moyens vraiment pas importants. Pour voir si elle pouvait se nourrir qu'avec des produits bio, pour une famille de 3 enfants, enfin 5 personnes. Et en fait, ils se sont rendus compte que oui, mais à condition de ne plus aller au supermarché. Parce que moi, j'ai vu à Saint-Denis, bon, je ne vais plus au supermarché, hein, mais enfin, je me rappelle, quand j'y allais encore, parfois, pour où je vais acheter une ampoule ou je ne sais pas quoi, les caddies pleins de trucs complètement dégueulasses, des pizzas surgelées, ça coûte très cher, en fait. Hein. Quand tu réfléchis bien, ça coûte très cher. Mais en fait, ça veut dire aussi que tu manges beaucoup moins de viande. Tu vois, quand tu en manges, tu en manges... de la bonne, à condition d'avoir accès à des endroits où tu peux acheter en vrac, donc avoir des bocaux pour aller acheter tes pâtes bio, ton riz, enfin tu vois, apprendre à manger des lentilles, des haricots, tu vois, ce sont des légumes, en fait, des légumineuses hein, qui te donnent des protéines végétales, tu vois, mais ça veut dire cuisiner, tu vois, il faut cuisiner, voilà, et après, aller sur les marchés, ou encore mieux, chez les producteurs, acheter tes légumes, parce que tu squeezes les intermédiaires, tu vois. Alors, si tu peux te regrouper, vous êtes à plusieurs, ben, vous achetez ensemble, enfin, tu vois. Et puis, vous verrez, au bout du compte, cet atelier, qu'est-ce qu'il disait ? Que oui, bon, à condition, t'as vu, quand même, hein, voilà. Eh ben, on peut, une famille avec un, on va dire, un revenu faible, comme une famille d'immigrés à Saint-Denis, hein, eh ben, peut manger bio et de très bonne qualité.
C'est le thème de la, du livre La cuisine à 4 sous de Claude Aubert, dans l'édition Terre Vivante, il dit ça.
Ben oui, 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 bien sûr. Eh oui, voilà. Mais il faut quand même. Alors, c'est vrai que là encore, c'est un peu le rôle des maires localement. J'en ai un devant moi. Hein. Non, mais d'encourager aussi, si vous voyez, l'accès, pour faire en sorte qu'il y ait des endroits où les producteurs viennent. Enfin, il y a de plus en plus d'endroits comme ça, hein, tu vois, pour pouvoir avoir l'accès directement à ces produits de qualité, tu vois. Mais et tu peux, tu vois. C'est possible, tout à fait possible. Et c'est vrai que ce bouquin, il est vachement bien pour ça, parce que. Le bouquin de Claude Aubert, parce qu'il donne des pistes comme ça. Hein. Et tu peux te passer de tous les machins, les McDo. Alors après, l'idéal aussi, c'est même quand on est étudiant, hein, c'est que de se trouver, d'aller dans une association où il y a des jardins partagés, tu vois. D'abord, c'est bon pour le moral, et c'est bien, quoi, tu vois. Et tu participes à un jardin partagé, tu récupères des légumes en saison, enfin, tu vois. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Et on n'est pas condamné, même quand on a des faibles revenus, je sais que les étudiants, c'est pas facile hein, pour eux, on n'est pas du tout condamné à mal manger. Il ne faut pas penser ça. Mais il faut s'organiser. Il y a plein de gens qui proposent plein de choses, tu vois. Et il faut les chercher sur le territoire, et puis on crée des choses ensemble, tu vois.